Tu es sûr? Sûr de vouloir être chrétien? Car il y a un sacré prix à payer. Et afin de te persuader de cela, je te propose un bref cours d'histoire allant depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de ce monde. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que toute écriture est utile pour enseigner, pour réfuter, pour corriger, pour éduquer dans la justice. Nous te demandons que ta parole soit ainsi à l'œuvre durant les minutes qui suivent. Donne-moi de bien dispenser cette partie de ta parole qui comporte des difficultés. Renouvelle notre pensée à nous toutes et tous. Transfigure-nous davantage à l'image de ton Fils. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Cela pour ta seule gloire. Amen. Quelle vision que Daniel reçoit au chapitre 7 de quatre bêtes horribles. Leur forme correspond grosso modo à ce que vous allez voir à l'écran. Merci beaucoup à Samuel en tant que projectionniste. Plutôt, voilà cette image. Ces bêtes, il serait possible d'agrandir, merci. Ces bêtes représentent des royaumes, des régimes, des empires. Je vous invite à jeter un œil au verset 17, Daniel 7, verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, quatre rois, ou un peu plus loin, le terme « royaume » est employé. Au chapitre 2, il a déjà été question de quatre royaumes, et si on peut maintenant rebasculer sur le tableau. Quatre royaumes représentés, vous vous souvenez de ça si vous étiez présent pour la prédication de Robbie sur le chapitre 2. Quatre royaumes représentés par les différents types de métal dans une statue. Voici l'or qui représente Babylonie, l'argent, la Médo-Perse, le bronze, la Grèce, le fer, l'argile, Rome. Ces quatre royaumes, on les retrouve ici au chapitre 7 et on en retrouve deux à nouveau au chapitre 8. Mais cette fois-ci représenté par deux autres animaux. Donc chapitre 7, chapitre 8, chapitre 2, avec ces correspondances. Et ça n'est pas simplement aléatoire. Je vous invite à jeter un œil au chapitre 8, verset 20, où il y a une indication très explicite. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc, cette case-ci, correspondant au bélier, verset 21 du même chapitre, le verset suivant, le bouc, c'est le roi de Javan, ou la Grèce. Ce verset n'enlève pas toutes les difficultés d'interprétation pour ce qui est du chapitre 7. Et c'est surtout l'identité de la quatrième bête du chapitre 7 qui suscite le débat. Pas simplement chez les commentateurs modernes, mais encore chez Daniel lui-même, chapitre 7, verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, qui foulait aux pieds ce qui restait. Et là, déjà, nous comprenons que ce cours d'histoire n'est pas quelque chose de neutre, n'est pas quelque chose qui se limite à quelques faits. Il y a eu l'Empire babylonien, et ensuite il y a eu l'Empire médo-perse, et ainsi de suite. Non, lorsque Daniel passe par ce rêve, il est troublé en son fort intérieur et effrayé, lisons-nous au verset 15. Mais peut-être que ça ira mieux une fois qu'il sera plus au clair sur la signification de ce rêve allez-vous me dire? L'interprétation est donnée et il sera moins traumatisé. En fait, c'est l'inverse. Ce que nous lisons à la fin du chapitre, c'est que la frayeur a augmenté et qu'il est devenu tout pâle. Or, 2 ans plus tard, sa vision du chapitre 8 consiste en un zoom sur ces bêtes 2 et 3 du chapitre 7, mais avec d'autres animaux cette fois-ci, et on a encore affaire à ce type de réaction chez Daniel. Il y a 3 versets qu'on pourrait lire, mais on va se contenter de lire le verset 27 du chapitre 8, 8-27, dernier verset du chapitre 8. « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » Et vous voyez là comment ces visions font irruption dans la vie du haut responsable de Daniel. Ici à la cour de Babylone, il s'agit de ce même Daniel que nous avons vu au 6 premier chapitre. Il est important de comprendre le lien entre les chapitres 1 à 6 et les chapitres 7 à 12, car en lisant les chapitres 1 à 6, on pourrait devenir un peu triomphaliste. Appartenir à Dieu, ça veut dire être promu jusqu'au rang de premier ministre. Appartenir à Dieu, ça veut dire être délivré de la fournaise ardente. Appartenir à Dieu, ça veut dire être délivré de la fosse au lion. Et les chapitres 7 et suivants arrivent maintenant pour compléter le message des chapitres 1 à 6. Et voici ce que nous apprenons. La souffrance risque d'être considérable pour le peuple de Dieu. Surtout pour celles et ceux qui sont en butte aux activités de la quatrième bête, et cela englobe chaque chrétien dans cette salle. Laissons-nous troubler par cette bête. On pourrait peut-être rebasculer sur les images. Voici notre cours d'histoire des empires successifs, Babylonie, Médo-Perse, Grèce, Rome. Rome est point d'interrogation. Qu'en est-il justement de cette quatrième bête qui, versets 7 et 8, est tellement terrifiante? On va lire ces versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette quatrième bête est terrifiante, puissante, violente, destructrice. Elle est aussi différente. Cela est souligné, différente des autres. Un peu plus loin dans ce chapitre, on découvre que sous un angle au moins, il faudrait considérer ces 4 empires comme existant en même temps. Ce qui tend à démentir l'idée que ce soit simplement l'empire suivant Rome. Dans cette quatrième bête, le verset 8 attire notre attention sur 10 cornes dans cette quatrième bête, 10 cornes qui symbolisent la puissance, et on vient de lire une petite corne qui sort et qui a des yeux humains et qui parle avec arrogance. Question capitale pour notre compréhension de ce chapitre. Daniel souhaite s'attarder là-dessus. L'interprétation qu'il reçoit s'attarde là-dessus. Et les enjeux pour le peuple de Dieu gravitent autour de cette question. Quelle signification accorder à cette petite corne? Il y a un indice au chapitre suivant, au chapitre 8. Là, il y a une petite corne qui doit être identifié à un personnage particulier de l'empire précédent, un certain Antiochos Épiphane. L'oppression exercée par Antiochos Épiphane contre le peuple de Dieu fait froid dans le dos. Voici comment il a agi contre le peuple de Dieu de l'époque de ce personnage. Les Juifs du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Projetons-nous dans la peau d'un Juif pieux, habitant à cette époque-là, habitant à Jérusalem. Je cite, « Le temple était rempli de débauches et d'orgies. Des païens se divertissaient avec des courtisanes, avaient commerce avec des femmes dans les parvis sacrés, et apporter des choses défendues. L'autel était couvert des victimes impures interdites par les lois. Il n'était pas permis de célébrer le sabbat, ni d'observer les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser qu'on était juif. » Or, et c'est là où le bât blesse particulièrement. Il faut comprendre que la petite corne du chapitre 7 est différente de la petite corne du chapitre 8, mais en même temps semblable et pire. Différente pourquoi? Parce qu'il est souligné que la quatrième bête est différente de tout ce qui précède. Différente parce que cette corne émerge non pas de 4 cornes, comme au chapitre 8, mais comme on l'a vu, de 10 cornes, est différente parce qu'on a affaire à une époque plus tardive. Mais semblable et pire. Vous voyez le verset 21 du chapitre 7. 7:21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Et le verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et les lois, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et il est vrai que certains diraient que la petite corne du chapitre 7, c'est Antiochos Épiphane. Et on comprend là les ressemblances avec lui entre les deux petites cornes des deux chapitres. On comprend, mais je pense que Antiochos Épiphane est une sorte d'ombre, de maquette, de type d'un personnage plus terrifiant encore. Quel personnage ? Si j'avais le temps, si c'était une soirée d'études, si c'était un cours à l'Institut biblique, on passerait du temps à examiner 3 chapitres du Nouveau Testament et on dresserait des parallèles entre Daniel 7 et ces 3 chapitres du Nouveau Testament. Il s'agit de 2 Thessaloniciens 2, 1 Jean 2 et Apocalypse 13. Et j'aurais envie de dresser des parallèles et de vous montrer comment ces chapitres nous permettent d'identifier cette petite corne. En l'occurrence, il y a un consensus large pour affirmer que ces passages du Nouveau Testament permettent cette identification. Je pense que vous seriez persuadé en lisant ces passages que cette petite corne de la quatrième bête correspond à une bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13, qui profère des paroles arrogantes et blasphématoires. Bête qui monte de la mer, Apocalypse 13. Je pense que vous constateriez qu'elle correspond au personnage que l'apôtre Paul qualifie d'impie. Impie. Vous verriez également qu'elle correspond au personnage que l'apôtre Jean qualifie d'antichrist. Antichrist. Là où il n'y a pas consensus parmi les croyants désirant se soumettre aux Écritures, c'est sur la question de savoir quand l'antichrist paraîtra. Ça dépend du schéma pour le déroulement des événements futurs qu'on favorise. Mais quel que soit le schéma qu'on favorise, nous nous trouvons sur le même terrain pour reconnaître ceci. Certes, l'antichrist vient, mais des antichrists sont déjà venus et sont là dans le monde. C'est ainsi que l'apôtre Jean s'exprime. Ou si vous préférez les propos équivalents chez l'apôtre Paul, si l'impie doit paraître dans l'avenir, le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Laissons-nous troubler par cela. Cette impiété se traduit par la persécution physique et le mensonge. Les deux se trouvent dans le chapitre 7. Et je vous livre un microcosme, un exemple à petite échelle de cette activité antichristique dans le monde aujourd'hui. Le pasteur Jean Lacra conduisait son bébé de 18 mois à l'hôpital pour un traitement d'urgence dans l'état d'Odisha en Inde. Lorsque sa voiture se trouva encerclée par des centaines d'extrémistes hindous, la foule en colère commença à lancer des pierres et à frapper sur la voiture à coups de bâton. Tiré de sa voiture, il fut giflé et battu, jeté sur la route. On le roua de coups de pied, puis on le força à monter sur une moto. Toujours accompagné par la foule en furie, il fut emmené jusqu'à une idole de la déesse hindoue Durga, forcé de s'agenouiller devant elle, toujours sous une pluie de coups. Son crime? Un hacker avait envoyé depuis son GSM un message et une photo insultant la déesse Durga. Soudain, on versa sur lui plusieurs litres d'essence. Il priait, « Seigneur, je me soumets à toi, que toi seul sois glorifié. » Les hindous criaient qu'ils voulaient l'offrir en sacrifice à leur déesse. Après une coupure d'électricité, il fut finalement secouru par la police. Il fut gardé 10 jours en prison jusqu'à ce qu'un enquêteur découvre que son téléphone avait été la cible d'un pirate informatique. Dans le temps et dans un autre pays, j'étais assez proche d'un couple qui était zélé pour l'Évangile. Ça me peine d'y réfléchir, mais ce couple est passé par des tensions et ensuite par le divorce. Ce qui a provoqué le divorce, c'est une interprétation particulière d'un passage au sein du livre du Deutéronome. Une interprétation embrassée par l'épouse. Cette interprétation a été proposée par un enseignant de la Bible qui disait avoir, je cite, reçu, après l'avoir demandé à Dieu, la capacité de lire et de comprendre directement l'hébreu et le grec en les lisant dans l'original. Cela s'est passé sans qu'il n'ait jamais appris ces langues. Il a reçu ça par révélation et il a pu confirmer ce qu'il avait reçu après avec des dictionnaires et livres de grammaire. Fin de citation. Les étudiants de l'Institut biblique belge qui viennent de passer par des examens de langue biblique sont en train de se demander « Mais pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à demander cette révélation directe de la part de Dieu un peu plus tôt ?» Non, mais afin d'aider ce couple, j'ai accepté de visionner l'un des enseignements de ce monsieur qui s'appelle Eddie. Son enseignement est truffé d'erreurs linguistiques. Un étudiant à l'Institut étant passé par un seul semestre d'hébreu pourrait constater cela. Mais Eddie parle bien. Il propose des supports apparemment professionnels. Il paraît très convaincant. Au point de persuader une femme intelligente et zélée pour le Seigneur de divorcer. Regardez Daniel 8, verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Voilà pour ce qui est de la petite corne qu'est Antiochos Épiphane. Il jette la vérité par terre. Maintenant, pour ce qui est de la petite corne qui est semblable mais pire, Daniel 7, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Changer les temps et la loi. C'est-à-dire quoi pour nous concrètement à notre époque? Essayer de redéfinir le mariage? Imposer une pression pour soutenir la gay pride? Affirmer qu'on peut choisir d'être une femme, même si on est un homme? Considérer que le pardon de Dieu s'étend à tout un chacun, même si ces personnes ne se sont pas tournées vers Dieu pour recevoir ce pardon. Pardon octroyé simplement sur la base d'une vie considérée comme correcte. Refuser de permettre qu'un groupe chrétien se réunisse dans un centre de congrès, car ce centre est, je cite, « géré par une instance publique soucieuse de préserver une position de neutralité philosophique ». Donner à penser que le Dieu de l'islam est le même que le Dieu du christianisme et que tout musulman sincère adore ce Dieu et sera sauvé. Il y a 10 jours, j'ai parlé avec un témoin de Jéhovah qui, fait étonnant, a voulu suggérer qu'on était unis spirituellement. Mais nous savons, par les saintes écritures, que tout esprit qui ne confesse pas le vrai Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. Vous avez entendu dire qu'il allait venir, eh bien maintenant il est déjà dans le monde. La quatrième bête fait particulièrement peur. Des antichrists sont présents et font la guerre au peuple de Dieu. Soyons-en troublés. Tu es sûr de vouloir être chrétien? car il y a un sacré prix à payer. Surtout si nous affichons publiquement notre foi. Dans sa vision, Daniel est amené à regarder en bas, en quelque sorte, à observer ce qui monte de la mer et dans le langage de ce genre littéraire, ça c'est ce qui émerge du domaine du diable. Il regarde en bas, mais pas seulement. À un moment, il est amené à lever les yeux vers le haut. À nous de faire de même. Car là, nous constatons que tout ce qui nous trouble se trouve entre les mains de Dieu. Laissons-nous réconforter. Daniel contemple deux personnages. C'est le verset 13 qui permet de comprendre que ces deux personnages se situent dans les cieux. Le premier personnage s'appelle l'Ancien des Jours. Nous, on dirait Dieu le Père. Mais ici, l'Ancien des Jours, verset 9. Dans notre société, on déprécie la vieillesse, mais ce titre est sans doute une façon parlante de dire qu'il est d'éternité en éternité. Et son apparence, verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. » Est-ce qu'il serait possible d'imaginer un plus grand contraste par rapport aux bêtes hideuses qui montent de la mer? Son vêtement est blanc comme la neige, il est pur, idem ses cheveux purs comme de la laine. On est dans le domaine du symbolisme, bien sûr, Dieu est esprit, mais chérissons ce langage qui véhicule des réalités concernant les attributs de Dieu. Figurons-nous ensuite, fin du verset 9, les flammes de feu et le feu ardent. Et début du verset 10, le fleuve de feu. Voici la présence de Dieu, voire la colère de Dieu. Sa majesté ensuite, verset 10. Est-ce que nous arrivons à imaginer le nombre de serviteurs ici qui se tiennent en sa présence? Le chiffre précis est traduit différemment selon les traductions chez nous. Donc, 1000 milliers, 10 000 millions. Je pense que c'est un moyen de dire un nombre incalculable. Et puis, fin du verset 10. Les juges s'assirent. Et les livres furent ouverts. Cet ancien des jours est le juge de l'univers. Et nous sommes en présence d'une scène de jugement. Est-ce que cela commence à changer la donne pour tempérer notre frayeur? Autre personnage qui agit de concert avec l'ancien des jours, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. Le fait de venir sur les nuées des cieux permet de comprendre que ce personnage est divin. Le fait d'être semblable à un fils de l'homme permet de comprendre qu'il est humain. Cet homme divin est, bien entendu, Jésus-Christ lui-même. Jésus se désigne Fils de l'homme 39 fois dans les évangiles. Il se trouve que ce verset 13 est repris dans le contexte du jugement dernier, exécuté par le Fils de l'homme. Quel est son rang? Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. avec la formule de la fin. On pense au Dieu de Daniel, que nous avons déjà rencontré dans les 6 premiers chapitres. Le Dieu dont le règne, la souveraineté, la domination ont déjà été démontrés en long et en large. Le Dieu auquel on doit se soumettre. Le Dieu qui est puissant pour délivrer. Est-ce que cela commence à changer la donne pour tempérer notre frayeur? Le fait de savoir que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné à celui que nous adorons, Jésus-Christ. L'ancien des jours qui agit en juge, le Fils de l'homme qui agit en juge. Qu'est-ce que eux pensent de la petite corne qui profère des paroles arrogantes? Verset 11. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. La destruction de l'Antichrist aura lieu. Nous lisons dans le Nouveau Testament que le Seigneur Jésus détruira l'impie par le souffle de sa bouche. Et avant la fin de la Bible, nous lisons que la bête se trouve dans les temps de feu et de soufre. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a des difficultés dans ce chapitre quant à comprendre le déroulement des événements futurs, des difficultés pour moi en tout cas. Mais voici l'essentiel. Voici deux constats limpides qui se dégagent du chapitre 7. Voici deux réalités qui sont soulignées dans notre chapitre. Tout est chronométré par Dieu et la victoire ultime est assurée pour le peuple de Dieu. Verset 12, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Lorsque je promène les chiennes de mon père en Irlande, il y a l'une d'entre elles qui tire fort lorsqu'elle voit un écureuil, par exemple. Ça peut faire mal aux épaules. Mais cette chienne reste en laisse. Et c'est moi qui décide quand elle revient vers moi. Dieu est maître des puissances du mal. C'est lui qui décide leur degré de puissance et la durée de leur puissance. Dieu n'est pas pris au dépourvu par le transgenre ni par l'islam. Regardons en haut et laissons-nous réconforter. La victoire ultime sur les puissances du mal est garantie. C'est le moment de résumer notre cours d'histoire, les versets 17 et 18. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Tu es sûr? Tu es sûr de vouloir être chrétien? Car il y a un sacré prix à payer. Mais au final, le peuple de Dieu héritera du royaume éternel dans une nouvelle création parfaite où le mal n'existera plus. Tu es sûr de vouloir être chrétien? Au regard de notre cours d'histoire, il n'y a qu'une seule réponse possible, un oui massif. Et pour être chrétien, il faudrait reconnaître que le problème du mal est ancré dans le cœur de chaque être humain. Il faudrait reconnaître que ce que nous méritons par nature, c'est le sort de la quatrième bête. Il faudrait comprendre que pour éviter ce sort, il faudrait se ranger du côté du peuple de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Fils de l'homme, qui viendra sur les nuées des cieux pour le jugement, est le même Fils de l'homme qui est déjà venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et toute la colère de l'ancien des jours provoquée par nos paroles arrogantes a été assumé par lui, Jésus-Christ. Pensons-y tout à l'heure, lors du repas du Seigneur. Si nous sommes parmi les personnes qui se sont appropriées cette délivrance, c'est comme si nous étions chez le dentiste. Nous pouvons supporter la douleur, parce que nous savons que ça ne durera pas définitivement. Ne plaçons pas notre espérance en Christ dans cette vie seulement. Cela ferait de nous les plus pitoyables de tous. Fixons les yeux sur l'aboutissement. Les souffrances par lesquelles nous passons ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Laissons-nous troubler, car les régimes de ce monde oppriment les croyants et rejettent la vérité. Mais laissons-nous aussi réconforter en attendant le jugement et la victoire. Levons les yeux vers le haut. Tout est chronométré par l'Ancien des Jours. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre appartient au Fils de l'homme. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.